Ouais, salut, c'est Charlie dans l'appareil. Bon, là, je suis dans un bouchon monstrueux, là, avec pare-choc contre pare-choc. Bon, avec les missions d'aujourd'hui, c'est... Mais en fait, ouais, le Mont Saint-Michel sous la neige, je veux te dire que là, ça fait 20 minutes que tout le monde stresse. Franchement, ça m'a fait dire... ça m'a fait déstresser parce que je me disais, pas possible qu'on puisse... Ouais, je sais pas, c'est bizarre quand même, des trucs pareils, mais j'ai du mal à le croire. Mais en tout cas, ça m'a bien fait déstresser, quoi. C'est... Ouais, voilà. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie de personnes dont tu parlais, quoi. Les numéros 2, c'est-à-dire ceux qui se marrent et tout. Mais vraiment, je les salue et merci beaucoup pour ce bon moment. On a bien rigolé.
Salut Daniel, je suis plié et je voulais te remercier parce que vraiment quand t'as annoncé que t'allais repasser le proctologue, je dis putain mais c'est pas vrai, il fait chier, c'est au moins la quatrième fois, il y en a marre, et en fait je me suis marré pendant toute l'heure et si tu le repasses encore une cinquième fois, bah je serais content. Et je voulais aussi féliciter le chirurgien parce que vraiment il a un art, il parle de ça avec une poésie, c'est vraiment excellent, c'était excellent. Merci encore et bonne continuation, salut à toute l'équipe.
Votre émission d'aujourd'hui, scandaleuse et nulle, du moins pour le peu que j'en ai entendu lors de la présentation du sujet, franchement. Moi, je me pose la question depuis pas mal de temps, d'ailleurs. Ne seriez-vous pas un petit peu vicieux, obsédé, malade par les sujets du sexe? Croyez-vous que vous élevez vos auditeurs en leur parlant de carottes, de bananes, de bouées, de toutes ces déviations de malades? Moi, je sais pas. Bien sûr, il y en a ceux qui en rigolent. Bien sûr, des cons, il y en a partout, mais vous... D'ailleurs, moi, je vous interdirai l'antenne et je ne vous donnerai même pas le droit... au chômage, voyez-vous. Et je ne dis pas non plus bravo à Monsieur S qui laisse sur France Inter, déjà, cette émission de pédale à midi avec Carlier, Bernet, cette pote. Et si en plus de ça, on vous donne une émission avec tous les sujets de saloperie, ben non, franchement, vous nous emmerdez, je vous trouve dégueulasse. Et je dis moi, je dis pauvre France. Pauvre France à tous ceux qui vous écoutent, monsieur. Au revoir.
Avec l'émission d'aujourd'hui, j'en suis convaincu. Le service public de caractère et d'esprit que j'aime, que nous ambitionnons ensemble, par son information aussi documentée que profonde, m'évitera dorénavant de passer pour un trou du cul. En effet, l'intervention à votre antenne de ce spécialiste au toucher délicat, procto tout tard, enrichira ma conversation, qui, tant pis, provoquera des réactions viscérales et nauséabondes. Je te suis redevable et je ne sais comment te remercier. Allez, à ciao et merci pour votre boulot.
Oui, je suis une fidèle de l'émission. Bravo pour l'émission succulente sur la proctologie. Extraordinaire médecin et commentaire truculent. Et puis j'appelle aussi pour un coup de gueule dans ce contexte dit de crise de la canicule. Et on s'étonne maintenant du manque de médecins, du manque de moyens dans les hôpitaux, mais de qui se fout-on alors qu'on ferme des lits, on réduit le nombre de médecins depuis des années en pensant qu'il y aura moins de patients et que les dépenses de santé vont réduire d'autant? Oui, l'hôpital public se meurt et il faut bizarrement 12 500 morts pour s'en rendre compte. Alors venez voir les conditions de travail et vous comprendrez mieux. C'était Isabelle, médecin à Bordeaux.
30 ans déjà. Que le temps passe vite, comme dit la chanson. Je me rappellerai toujours, sur 11 septembre 73, vers 7h30 du matin, quand les avions ont survolé le centre-ville de Santiago où j'habitais. C'est les mêmes images, ou presque, qu'on a vues il y a 2 ans, les avions qui survolaient New York. Mais comment ne pas s'interroger sur le fait que, dans les deux cas, les États-Unis sont mêlés jusqu'au cou. Ils avaient aidé les militaires latino-américains depuis 64 au Brésil, juin 73 en Uruguay, septembre 73 au Chili, 76 en Argentine. Et grâce aussi, il ne faut pas l'oublier, au soutien et à l'aide ô combien importante du général Osares pour préparer la machine de la répression de la torture. Nous avons été obligés de partir. 29 ans que je suis là, en France. 29 ans que je rêve de mon pays et que j'arrête pas de dire « Basta, ça suffit, Pinochet il doit payer, il payera de toute façon, même s'il meurt dans son lit comme Franco. Personne n'a le droit d'oublier ce qui s'est passé au Chili, personne n'a le droit d'oublier ce qui s'est passé en Algérie, en Indochine, partout dans le monde. Et nous sommes là jusqu'à la fin de nos jours pour répéter ce que nous avons vécu, pour empêcher que le silence tombe sur nos têtes, pour empêcher que l'argent paye notre silence pour toujours, comme il cherche à le faire aujourd'hui le gouvernement de Lagos au Chili. Merci Daniel pour tes émissions. Ça fait longtemps que je t'écoute. À bientôt.
30 ans, et toujours la même conviction dans la voix de cet auditeur. Bien sûr, on va s'associer dans les émissions des jours prochains et à cette célébration du 11 septembre 1973 au Chili. Vous êtes nombreux à quoi faire ? Ben, nous demander des copies d'émissions, notamment les deux émissions de reportages de Claire Otter sur le profession alcoolique, sur ce commercial qui nous a raconté ce qu'était son métier. Alors, c'est pas facile de vous répondre. En tous les cas, une chose que vous ne faites surtout pas, vous n'allez pas sur le site lbsjs.free.fr, c'est un site pirate. Alors vous n'y allez surtout pas, parce que sinon vous trouveriez là tout ce que vous espérez, c'est-à-dire des centaines et des centaines d'émissions de La Basse J'y suis qui y sont. Donc n'y allez pas, puisque ce sont des pirates, et vous le savez, les pirates, c'est mal. Voilà. Aujourd'hui, Cancun ou Cancun, on va y aller avec Guy Van Til, qui a rencontré Raoul Marc Génard de Oxfam. Hier on a rigolé, aujourd'hui on travaille et on essaye de comprendre ce que c'est que l'OMC. Tout ce que vous n'avez jamais osé demander, vous faites semblant de comprendre, vous ne comprenez pas bien, nous non plus, pas toujours aujourd'hui. C'est impeccablement expliqué. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de La Basse J'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour, je suis Pascal Durand, premier adjoint de la commune de Bétheny, une ville de 6000 habitants, de la Marne, proche de Reims. Interpellé depuis longtemps par les problèmes sociaux et environnementaux, j'ai proposé lors du dernier conseil municipal du 4 septembre de voter une motion contre la GCS, motion qui réclame notamment la diffusion publique immédiate des négociations en GCS, le moratoire de ces négociations, l'ouverture d'un débat national. Nous prenons aussi position en tant qu'Assemblée élue contre l'obligation qui nous sera faite de privatiser les services publics et de déclarer la ville de Bétheny zone non AGCS. Cette motion a été votée à la majorité de 25 élus sur 29. Elle est bien sûr qu'un vœu pieux, si l'on peut dire, mais si d'autres élus font comme nous, et comme l'ont fait déjà les élus de Paris et de quelques autres communes françaises, nous pourrons peut-être faire enfin vraiment bouger les choses dans le bon sens. Merci.
Le sexapile de la pâte de mouche est comme le capitalisme de la tarte aux pommes. Je répète, le sexapile de la pâte de mouche est comme le capitalisme de la tarte aux pommes. CD, la plume insoumise. Mai 2003.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de l'émission, c'est Christophe de Valence dans la Drôme. Je voudrais rendre hommage encore une fois à la résistance exemplaire des Gaulois, cette dizaine de personnes responsables d'eux-mêmes et de leurs actes qui ont pris position dans la façade du Conseil Général de la Drôme pour protester contre l'accord général sur le commerce et les services, qui est en passe d'être signé à Cancun. Alors, pour les soutenir dans cette lutte quelque peu déséquilibrée vis-à-vis du pouvoir local, les Gaulois vous donnent rendez-vous tous ce soir devant le Conseil Général de la Drôme à Valence pour le grand cri à 19h30. Les Gaulois ont besoin de vous, rejoignez-nous, venez nous soutenir, venez nombreux, merci beaucoup.
Bonjour, c'est Jean Alphen de la CNTLS. Voilà, nous organisons une journée en mémoire de Francisco Granado et de Delgado, qui était ébéniste à Grenoble, et Granado était forgeron à Alès. C'est deux militants libertaires qui ont été exécutés en 63 à Madrid. Et on organise une journée donc à la Bourse du Travail d'Alès, samedi 13 septembre, à partir de 15h. Alors il y aura des témoignages, des débats, et pour finir de la musique. Voilà, salut à tous, et puis à samedi, donc samedi 13, à la Bourse du Travail d'Alès. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, avec Raoul Marc Génard. Cancun, Cancun. Flight number 2, arriving from
Houston. Pas de sa colle! La santé! Ma retraite! Ma culture! Les ciné! Les bibliques! L'édition! Les musées! La santé! Le vivant! Notre monde, notre planète.
Citoyen du monde, citoyen du monde. Une belle expression, hein, citoyen du monde. Et un bel horizon, citoyen du monde. Sauf que c'est pas pour demain et ce sera pas pour tout le monde. Par contre, une utopie en voie de réalisation, c'est client du monde. Ah oui, tous clients, clients de tous les pays. Démerdez-vous, n'est-ce pas la devise dont rêve le monde entreprise, l'entreprise monde qui étend son règne sur notre planète chaque jour davantage. Imaginons, nous dit le New Statesman de Londres, un journal, imaginez un gouvernement mondial dirigé par de grandes entreprises. Ne serait-ce pas merveilleux? Plus de politique, plus d'idéologie, plus de ces extrémistes archaïques, altermondialistes, grévistes, islamo-marxistes. Terminé. Tout le pouvoir aux entreprises. Et si un gouvernement, mettons, adopte une réglementation en matière de santé publique ou d'environnement qui risque de limiter l'intérêt et les profits des sociétés, eh bien, aussitôt, le monde entreprise impose des sanctions financières jusqu'à ce que la loi, la réglementation soit purement et simplement annulée. Je délire, c'est absurde. Eh bien, non. C'est ce qui est en train de se mettre en place sur notre chère vieille planète. Et c'est ce que disent ceux qui viendront à Cancun, ceux qui sont à Cancun pour la 5e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce du 10 au 14 septembre 2003 pour s'opposer aux accords de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Je reviens sur cette absurdité que je viens de décrire, cette utopie qui serait en voie de réalisation. Prenons l'ALENA. L'ALENA, vous le savez, c'est l'accord de libre-échange pour l'Amérique du Nord. L'ALENA, eh bien, depuis 9 ans, les habitants du Mexique et des USA et du Canada vivent sous ce régime. Une petite histoire pour commencer. En 1996, le gouvernement canadien interdit un produit dangereux, un additif au carburant qualifié de, je cite, « dangereuse neurotoxine ». Et qui qualifie ainsi ce produit, cet additif au carburant? Eh bien, c'est le premier ministre canadien, lui-même, monsieur Jean Chrétien. Eh bien, en vertu des accords de libre-échange de l'ALENA, l'entreprise qui distribue le produit toxique, la société Ethyl, porte l'affaire devant les tribunaux adéquats. Et par le simple fait que le gouvernement canadien ait débattu d'un tel projet de loi, la loi n'a pas été votée, mais on en a débattu au Canada, eh bien, il y a là une atteinte portée à l'image de la société Ethyl et donc de ses bénéfices à venir. Moralité, le gouvernement canadien a reculé, le projet de loi a été annulé, aboli, et le gouvernement canadien, en présentant ses excuses, a versé à la société Ethyl 13 millions de dollars prélevés évidemment dans les poches des citoyens du Canada. C'est une petite histoire parmi des centaines et des milliers d'autres. Voilà ce que l'ami, vous vous souvenez, l'ami voulait nous imposer. Voilà ce que l'OMC veut nous imposer. C'est un des aspects de ces accords, de cette conférence ministérielle qui se tient donc à Cancun, au Mexique, ces jours-ci. C'est dire l'enjeu, c'est dire l'importance de ce qui se passe là-bas et l'urgence de comprendre. Des sondages récents ont montré que si certains de nos compatriotes comprennent à peu près quels sont les enjeux de cette d'une telle conférence, beaucoup hésitent, ne comprennent pas. C'est vrai que c'est pas facile à piger. Voilà pourquoi Guive Anquetil, que vous connaissez, a rencontré Raoul Marc Génard de l'Oxfam, qui va calmement, tranquillement nous expliquer de quoi il retourne. C'est dans la basse où j'y suis, c'est sur France Inter et ça s'arrêtera à 18h.
Pauvre de nous, peuple si faible, mais où est donc passé la plèbe? N'y a-t-il plus que des bourgeois et qui désirent tout ce qu'ils voient? Y en a plein qui achètent un moulon de six caves, des obligations et des actions à Paris-Bas, un lingot de cachet tout au fond de la cave, des Napoléons et puis encore je ne sais quoi. On rêve tous de cabriolets, de Mercedes et de posséder une belle et grande villa, pleine de champagne et de superbes gonzesses, habillées par Chanel, Dior et puis Chantal Thomas, pleine de scènes, pleine de fesses et qui ressemble à Pamela. On voudrait tous être Bill Gates et Bill Clinton et Monica. Quand vient le samedi, à tous les fous, c'est la grand-messe de la consommation au supermarché de son choix. On fait des achats, mais quand on arrive à la caisse, malheureusement, on fait souvent des chèques en bois. Les riches s'envergognent, augmentent leur richesse, à pauvre couillon, tu ne t'en aperçois pas. Les politiciens sont à l'aise pour magouiller à tour de bras. Et c'est toujours le plus balèze qui du faible brise les doigts.
Alors si la France ne se gouverne pas dans la rue, le MEDEF vous dit qu'elle s'appauvrit dans la rue. Le MEDEF, bien entendu, dit aux Français de choisir.
Nos Cancun, ils répondent. Enfin, c'est pas beaucoup de Français. Il faut bien dire que ceux qui sont en train de brailler nos Cancun ne sont pas la majorité, c'est bien évident, mais ils sont quand même un petit peu dans la rue. Ils sont dans la rue, ils étaient dans la rue samedi dernier, ils sont à Cancun, dans le charmant petit village niché dans son écrin de verdure, qui va devenir une célébrité, qui va devenir un nombril du monde, comme jadis la gare de Perpignan, et puis ça tout se passe à Cancun, au Mexique, cette cinquième conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce. Il y a 146 pays qui participent en principe, enfin il y a quand même des représentants de certains pays qui n'ont pas les moyens d'y aller. Ben oui, c'est dire tout de suite d'emblée, d'entrée de jeu, les prodigieuses inégalités qui ne font qu'augmenter sur notre pauvre monde à l'intérieur des pays, comme entre ce qu'on est convenu d'appeler le Nord et le Sud. Pour comprendre aujourd'hui, calmement, on va écouter un spécialiste, quelqu'un qui est éclairé et engagé, un observateur compétent et engagé comme nous les impressions, qui s'appelle Raoul Marc Génard, qui appartient à Oxfam. Oxfam, c'est une ONG britannique qui a déjà un certain âge, qui était l'Oxford Committee for Famine Relief, et Raoul Marc Génard est chercheur donc à l'Oxfam, Oxfam Solidarité à Bruxelles. Il est délégué d'Oxfam International au sommet de l'OMC, il était à Doha, il est à Cancun, et avant de partir pour Cancun, donc il a passé un peu de temps avec notre Guive pour nous expliquer toutes les choses calmement, tranquillement, sans polémique aucune, ce qui est très important, pas de polémique, on est contre la polémique. Aujourd'hui, c'est l'éducation populaire dans la basse issue.
Alors l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce, c'est aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de difficultés à le reconnaître, l'organisation la plus puissante du monde. Parce que non seulement elle fait les règles, elle les applique, elle les exécute, donc elle est déjà pouvoir législatif et pouvoir exécutif, mais en plus, elle dispose d'un organe judiciaire pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles. Or, aucune autre institution internationale au monde,
par les Nations Unies,
par l'Organisation Internationale du Travail, par l'Organisation Mondiale de la Santé, donc ni dans le domaine crucial de la santé, ni dans celui de l'éducation, ni dans celui de la culture, les institutions internationales ne sont dotées d'une capacité à imposer les principes et les règles qu'elles sont censées gérer. Mais, par contre, l'OMC, elle, elle a ce pouvoir.
Elle a son tribunal, le tribunal de l'OMC.
Elle a son tribunal, ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle organe de règlement des différends.
Bah oui,
c'est intéressant de faire la sémantique, d'ailleurs, de tout le vocabulaire utilisé dans les accords de l'OMC, parce que souvent, les formulations sont plaisantes. Soft, si je peux.
C'est-à-dire qu'organe de règlement des différends, c'est beaucoup plus soft que tribunal.
Bien entendu. Et si vous saviez quel est le principe majeur qui parcourt tous les accords de l'OMC, ben, on retrouve encore une fois une formulation plaisante, ça s'appelle le principe de non-discrimination. Nous sommes tous hostiles à toute forme de discrimination raciale, religieuse, linguistique, nationale, que sais-je. Seulement le problème, c'est qu'il s'agit de discrimination par rapport à la concurrence commerciale, ce qui fait quand même une certaine différence et ce qui indique d'emblée, et ça c'est aussi important de le signaler quand on parle de l'OMC, ça indique d'emblée quelle est la préoccupation première, la vision du monde, c'est une vision marchande. En fait, c'est à peine caricatural de dire que quand on parcourt l'ensemble des textes que gère aujourd'hui l'OMC, on a le sentiment que se construit une société où tout est à vendre ou à acheter. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, et tout ce que l'humain peut créer, peut inventer, toute
la culture, le savoir.
Absolument, des procédés, le vous l'avez dit, le savoir, le génie humain, tout ça doit pouvoir être vendu ou acheté, et donc répondre prioritairement aux règles de la concurrence commerciale. C'est ça l'OMC.
En ce qui concerne les places européennes, le First 80, au moment de la clôture de Paris, était en baisse.
Marc Genat, avant de venir vous retrouver à Bruxelles, j'ai fait un petit crochet par Genève.
Quelle idée.
Où je suis allé m'entretenir avec les responsables de la communication de l'OMC. Alors, faisant part justement de notre inquiétude que vous aviez éveillée avec d'autres, et en leur demandant de nous rassurer. Alors, j'aimerais bien vous faire écouter ces 3 minutes.
Alors, donc je travaille à la division de l'information et de relations avec les médias de l'OMC, et je suis, on le dit en anglais, information officer, et donc nous informons les médias et le public en général de ce qui se passe à l'OMC.
Dans quelques secondes, la clôture sur le marché américain du New York Stock Exchange et aussi par la direction de North European Oil Royalty Trust qui sonne la cloche ce soir. La voici.
Bon, la mondialisation, c'est quand même un concept assez abstrait, hein. À l'OMC, on s'occupe du commerce, hein. Donc c'est précis, c'est concret, il y a des barrières au commerce, on fait sauter ces barrières au commerce. Au secrétariat de l'OMC, nous sommes persuadés que il y a certains malentendus que l'on doit dissiper pour tout ce qui est négociation des services, le dossier SGCS. Nous sommes toujours prêts à vous parler, donc si vous avez d'autres émissions qui parlent de l'OMC, s'il vous plaît, contactez-nous. Nous sommes toujours prêts à vous parler.
Paul-Marc Genat, l'OMC souffre apparemment d'incompréhension. Vous troublez, vous et quelques autres, troublez son discours.
Ben, j'espère bien, parce que si elle se plaint de ne pas être crue, ben c'est qu'elle n'est pas crédible. D'abord, c'est son mode de fonctionnement est d'une telle opacité. Nous sommes à quelques jours de la conférence ministérielle de l'OMC à Cancun. Les procédures de préparation de cette conférence sont une insulte aux règles les plus élémentaires de la démocratie. Les réunions préparatoires se tiennent dans le secret. des ambassadeurs des pays du Sud se voient interdire l'accès à ces réunions ou à certaines d'entre elles. Il faut se rappeler, par exemple, qu'à la précédente conférence ministérielle à Doha, il y avait des réunions où les ministres n'avaient, des pays en développement, bien entendu, n'avaient pas le droit de se faire accompagner de leurs experts, alors que Monsieur Zelik, le ministre américain du Commerce, et son collègue européen Pascal Lamy, étaient entourés d'une armée de juristes, d'économistes, d'experts financiers, etc. Les services de l'information de l'Organisation mondiale du commerce se plaignent d'un déficit de crédibilité, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Il n'y a rien dans le fonctionnement de cette institution qui permette qu'on lui fasse confiance.
Mais à qui profite la GCS ? Aux citoyens ou aux entreprises ?
La libéralisation des services profitera essentiellement aux multinationales qui domine le marché mondial.
L'OMC est un endroit où à peu près 150 pays se rencontrent pour décider de réduire tout ce qui est barrière au commerce. Alors, il faut pas dire que l'objectif final, c'est la libéralisation totale du commerce. Ça, on n'y arrivera pas et je pense que les États ne le veulent pas non plus. Mais on ne perd pas courage. Je pense qu'on n'a pas encore réussi à faire comprendre que tout ce qui est secteur public, la santé, l'éducation, tout ça ne sera pas touché par les négociations. Et pourtant, on le répète, on a écrit des brochures là-dessus, on les a distribuées, mais on continue.
Notre santé, notre culture, les bibliothèques, les musées, l'édition, les cinés, et notre corps.
Alors, faut pas lui faire confiance quand elle nous dit, en toute bonne foi, notre but n'est absolument pas de libéraliser tout à tout bout de champ.
Bah alors qu'ils modifient les textes qu'ils sont censés gérer, parce que je viens de l'entendre. Et moi, je suis très surpris que quelqu'un qui est en charge de l'information, mais peut-être devrait-on changer sa dénomination et dire la désinformation, parce que moi, c'est pas ce qu'ils disent qui m'intéresse, ce sont les textes. Et les textes, ce sont des traités qui ont une valeur en droit international et qui, en plus, sont contraignants. L'article 10 qui crée l'OMC dit que les accords de l'OMC s'imposent au droit national des États. Ça, ce sont des réalités, c'est pas un travail de communication. Et si je lis l'accord qui crée l'OMC, l'objectif de l'OMC, c'est d'aller vers le libre-échange le plus accompli possible. Donc c'est clair, c'est sur le papier, on n'a pas besoin de fantasmer et d'inventer n'importe quoi, on n'est pas parano, on est effrayé parce que nos gouvernants ont négocié et signé et nos parlements ont ratifié, probablement sans savoir très bien de quoi il s'agissait, mais aujourd'hui on voit que c'est en train d'être mis en œuvre et ce n'est pas le travail de communication de l'OMC ou de la Commission européenne qui va modifier les textes. Si demain ils proposaient des modifications des textes, alors peut-être commencerait-on à les prendre au sérieux.
Le but, c'est que tout le monde bénéficie du commerce.
Alors, est-ce que tout le monde peut en bénéficier ?
Je pense que tous les pays sont d'accord que l'OMC, c'est une opportunité à saisir et qu'il faut évidemment faire un gros effort pour mener à bien ce cycle de négociations, que certains pays doivent faire peut-être plus d'efforts que d'autres. Et donc, peut-être qu'il y a un remaniement à faire dans certaines économies. Mais le but, c'est que d'une façon globale, tout le monde y gagne. Bon, alors vous me direz que je suis une idéaliste, mais c'est ça le miracle du commerce. Tout le monde peut en bénéficier, alors peut-être certains plus que d'autres, mais le but c'est que personne ne perde.
Ça semble être ça le mot d'ordre. Bon, Lucie Giraud de l'OMC est presque naïve quand elle nous dit « Bon, tout le monde ne peut pas gagner, il y en a qui vont gagner plus que d'autres, mais l'important quand même c'est que personne ne perde, que globalement tout le monde y gagne. »
Mais moi
c'est le credo, quoi.
Je suis assez stupéfait d'entendre de tels propos parce que les faits démentent cette affirmation selon laquelle le commerce, plus il est libéralisé, entraîne automatiquement la croissance, qui entraîne automatiquement le développement. C'est pas nécessairement vérifié dans tous les cas. Et là, il faut bien reconnaître qu'on est en face d'un véritable dogmatisme. Moi, je veux bien reconnaître et je constate que le commerce et le libre-échange peuvent avoir des effets stimulants, mais ils sont d'autant plus stimulants qu'ils se passent entre partenaires de même niveau de développement. Dès l'instant où on impose des règles, alors que ces règles sont appliquées à des partenaires de niveaux de développement différents, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. J'ai un ami syndicaliste qui fait souvent cette comparaison. L'OMC, c'est comme si on mettait sur un ring de boxe un poids lourd et un poids plume. On voudrait mettre tout le monde sur un même marché.
Disons que les deux ont les chances de gagner.
Oui, mais c'est clair que si vous opposez la France et le Sénégal, l'Union européenne et l'Afrique, vous opposez des partenaires qui ne sont pas de même taille, qui ne sont pas à un même niveau de développement, qui n'ont pas les mêmes atouts. Hein, je voudrais quand même rappeler que 97% des brevets, par exemple, sont dans l'hémisphère nord.
97% des brevets.
Ouais. Autrefois, avant l'OMC, quand on parlait de développement, on parlait de transfert de technologie. Aujourd'hui, depuis qu'il est à l'OMC, on parle de protection des brevets. Ce qui est la négation même du transfert de technologie, parce que c'est une protection, au nom du libre-échange, des détenteurs des brevets qui sont toujours du même côté. Ce sont toujours les mêmes qui ont tous les atouts dans cette négociation et dans cette activité. Et donc, aujourd'hui, cette volonté d'imposer des règles, dont en plus, parfois, les pays riches s'exonèrent, l'exemple le plus spectaculaire, c'est l'agriculture. Il faut quand même rappeler que l'accord sur l'agriculture impose l'ouverture des marchés à tout le monde, qu'il y a quelque chose qu'on a appelé l'hypocrisie à parfois de cette dimension, une clause de paix qui interdit aux pays qui respectent le principe de l'ouverture des marchés de déposer plainte contre ceux qui ne respectent pas. Qui ne respecte pas ce principe? Qui ne respecte pas le libre-échange en matière agricole? L'Union européenne et les États-Unis qui soutiennent leur agriculture à hauteur de plus d'un milliard de dollars par jour. Ce qui fait que le riz américain est vendu moins cher sur le marché vietnamien que le riz vietnamien, et le blé européen est vendu moins cher sur le marché argentin que le blé argentin. Si c'est ça, le commerce, un commerce qui serait régulé, moi j'appelle ça une concurrence déloyale, et c'est organisé, et c'est légalisé par un accord de l'OMC. C'est véritablement à l'opposé d'une compétition qui serait équitable.
Madame Afrique, qu'est-ce que vous avez maigri? Asseyez-vous, je suis le docteur Banque Mondiale. Je vous présente mon associé, le docteur FMI. Vous inquiétez pas, on ne vous fera aucun mal. On a enfin trouvé le médicament pour soigner et guérir votre maladie. Un comprimé dépasse tous les jours pendant 5 ans. Je vous assure, l'effet est garanti. Madame Afrique s'en va rassurer, contente de savoir que les choses vont changer. Mais dès le premier cachet avalé, les effets secondaires n'ont pas tardé. Licenciement, privatisation, suivi de pauvreté. Soulèvement populaire, bonjour l'instabilité. Ils nous donnent de la main européenne, de la main gauche. Pendant que la misère, la faim et la maladie nous fauchent. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. C'est bien beau d'imposer le café et le coton, mais quand nous avons faim, c'est pas ce que nous mangeons. Ils nous assomment à coups de dettes et c'est comme qu'on est mal à la tête. Même quand on a un président démocrate qui veut sortir son peuple de la misère, il se heurte à la politique des technocrates qui décide ce qui est prioritaire. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés.
Là-bas, si j'y suis, une autre radio est possible.
La formule « un autre monde est possible » que l'on voit fleurir dans les milieux extrémistes, quand on dit « on veut plus entendre parler de la société française, hein, ça c'est fini, tous ces entrepreneurs, toutes ces entreprises, tout ça on n'en veut plus, allez, vive telle ou telle vision assez romantique, quelquefois un peu désespérée, d'ailleurs intéressante ». Mais nous avons un extrémisme, en effet, qui se réfugie dans l'invocation, quelquefois d'ailleurs dans l'action brutale, mais qui n'est pas constructive.
Protocole ! La santé ! La retraite ! La culture ! Les ciné !
Un monde ! Un monde où tout, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain et ce que l'humain crée et produit serait à vendre et à acheter sans aucune limite, sans aucune entrave. Jouir sans entrave, et oui, ça y est, 35 ans après, eh bien le message est arrivé, non seulement le message, mais son application, sa réalisation. Aucune entrave sanitaire, sociale, environnementale ni culturelle, légale ou réglementaire, nationale ou locale, qui ne viennent contrarier le pouvoir absolu des règles de la concurrence commerciale. Voilà, avec la complicité des gouvernements, eh bien, tout ça se passe évidemment dans l'opacité la plus grande et en l'absence de tout contrôle démocratique. Il faut aller là-bas à Cancun, c'est moins loin, pour hurler, pour crier, pour passer pour un extrémiste violent et pour essayer de comprendre, d'abord de comprendre, c'est vrai que l'opacité est très grande, mais que les risques le sont tout autant. J'ai cité l'exemple de la compagnie Etil dans le cadre de l'ALENA, mais au Mexique voisin, qui fait partie lui aussi de l'ALENA, eh bien le gouvernement mexicain a dû payer près de 16 millions de dollars à la société américaine de traitement de déchets Metalclad, parce que les autorités municipales responsables du site de Guadalcazar avaient refusé d'autoriser Metalclad à y ouvrir une nouvelle usine de traitement de déchets toxiques qui risquait fort de contaminer la nappe phréatique. Oui, les gouvernements, les pouvoirs publics ne peuvent plus gouverner ni avoir le pouvoir public du public qui les a élus devant les impératifs des entreprises et du commerce mondial. Évidemment, on l'a compris, il s'agit pas du tout, et Raoul Marc Génard le souligne, de supprimer complètement le commerce, mais évidemment de le dominer, de légiférer et de le pratiquer dans le cadre des lois. Voilà pourquoi nous essayons aujourd'hui de comprendre ce qui se passe à Cancun.
Mais alors, qui se cache derrière l'OMC? Qui se cache justement derrière ce mouvement de fond de libéralisation?
Mais je pense qu'il y a d'abord un air du temps. Ce n'est pas par hasard que l'OMC a été créée en 1994 et a commencé à exister à partir de 95, c'est-à-dire quelques années après la chute du mur de Berlin et la victoire d'une idéologie sur une autre. Il y a un air du temps qui consiste à penser que quand c'est privé, c'est meilleur, c'est moins cher, c'est plus efficace, qui n'est pas vérifié. C'est une première chose. Il y a une deuxième chose, il faut quand même rappeler que les accords de Marrakech et aujourd'hui le fonctionnement de l'OMC, ça n'est possible que parce que il y a des gouvernements qui y participent avec le soutien d'une majorité parlementaire. Moi, je suis obligé de rappeler, pour ramener les responsabilités réelles là où elles se trouvent, que, par exemple, pour ce qui concerne les pays européens et la France notamment, ce sont des matières qui sont aujourd'hui, au niveau de la négociation, traitées par la Commission européenne, en l'occurrence le commissaire européen Pascal Lamy, qui est le négociateur unique au nom des États de l'Union européenne. Mais Monsieur Lamy fait ce qu'il fait sur la base d'un mandat qui lui a été donné en 1999, c'est d'ailleurs toujours le même, qui est un véritable chèque en blanc à libéraliser, mais ce mandat lui a été donné par les 15 gouvernements de l'Union européenne, et je rappelle quand même qu'en 1999, on avait Tony Blair, Monsieur Schröder, Monsieur Jospin et Monsieur D'Alema, tous de la même famille politique, qui dominaient, d'une certaine gauche en tout cas, qui dominaient l'Europe, et il y avait des sociaux-démocrates dans beaucoup d'autres gouvernements de coalition, et ce sont ces gouvernements-là qui ont donné à la Commission européenne, à Pascal Lamy, un mandat. Mais s'il avait pu réaliser ce mandat pleinement, on aurait pu ajouter à la soixantaine d'accords que gère aujourd'hui l'OMC une vingtaine d'accords supplémentaires. C'est un mandat extraordinairement néolibéral qui tend à aller vers une autre société, un autre monde où le marché est la règle. Alors, bien sûr, derrière les gouvernements, il y a des pressions qui s'exercent, derrière ou à côté, c'est comme on veut, et c'est clair que d'un côté, on a le patronat qui s'est d'ailleurs beaucoup plus rapidement adapté aux nouvelles réalités internationales, c'est-à-dire d'abord pour nous la construction européenne et puis l'OMC, beaucoup plus rapidement que les organisations syndicales, par exemple, qui au niveau européen sont encore d'une impuissance remarquable. Donc il y a là un équilibre. On sait bien que toute société, c'est le résultat d'un rapport de force. On a réussi parfois à équilibrer les influences des uns par les influences des autres. Ce faisant, ça montre que Montesquieu n'a pas pris une seule ride, puisque Montesquieu écrivait dans l'Esprit des lois au XVIIIe siècle qu'à tout pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Mais le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que la vague néolibérale est aussi déferlante, c'est qu'il n'y a pas de véritable contre-pouvoir au pouvoir des grands lobbies d'affaires, des groupes de pression du monde patronal qui se sont organisés en conséquence, qui ont leurs petites et grandes entrées auprès de chaque gouvernement, auprès de la Commission européenne et auprès de l'OMC, et qu'en face de cela, à part la constellation des mouvements associatifs, des ONG, et ici et là de quelques organisations syndicales, mais qui jusqu'à présent font peut-être de plus en plus parler d'elles, mais ne font pas encore le contrepoids nécessaire pour limiter ce pouvoir exorbitant du monde des affaires sur les gouvernements.
La santé. L'eau. L'éducation. Et est-ce qu'on peut en sortir ?
En théorie,
oui.
En pratique,
c'est quasiment impossible.
Un seul, ils veulent dominer le monde répond, résistance.
C'est quasiment impossible. L'effet cliqué.
C'est un choix de société. C'est un choix fondamental de savoir si on veut que l'accès aux soins de santé soit rendu possible pour le plus grand nombre ou rendu possible à ceux qui peuvent le payer. C'est un choix fondamental de société, et à partir du moment où on a fait ce choix, et si on a fait le choix pour lequel d'ailleurs des générations d'Européens se sont battus, c'est-à-dire l'accès pour tous aux soins de santé, bien il faut organiser l'allocation des ressources en conséquence. Vous savez, les priorités budgétaires, ce sont des décisions politiques, mais on nous les présente. Tous nos gouvernants ont cette fâcheuse habitude de nous les présenter comme des fatalités.
Voilà. Il n'y a plus d'argent dans la caisse.
Oui, mais bon, il n'y a plus d'argent dans la caisse parce qu'on l'a dépensé à autre chose, ou bien parce que on s'est privé de recettes possibles. Quand on supprime les impôts sur les salaires les plus élevés, et on sait quand même que les gouvernements ont aussi ouvert la porte à des salaires mirobolants pour des chefs d'entreprise, ça a des conséquences. C'est clair que pour mettre en œuvre une politique, quelle qu'elle soit, il faut des moyens. Baisser les impôts, c'est entrer dans une logique d'un état minimum qui se traduit inéluctablement par le fait que l'éducation, la santé, la culture, ben, ce sera pour ceux qui peuvent le payer, puisque c'est une forme de privatisation de ces services. Alors, si on accepte cette évolution, bien, on va assister à ce qu'on constate déjà parfois dans certains établissements privés, c'est que quelqu'un qui arrive aux urgences, on demande d'abord, on vérifie d'abord s'il a les moyens de payer les soins qu'il réclame avant de le soigner. C'est intéressant parce que en termes de priorité, c'est l'argent avant l'humain.
La carte bleue avant le pouls, quoi.
Voilà, tout à fait. Un médicament est une marchandise. Un médicament n'est pas un moyen de se guérir, de se soigner.
Et donc, il y a là un fossé immense entre deux visions du monde et deux visions des rapports entre les êtres humains.
Dernière question, est-ce que ce sont les altermondialistes qui sont paranoïaques, puisque c'est les seuls, en gros, à en parler? Pourquoi peu de politiques se saisissent du dossier et pourquoi personne s'y intéresse?
Comme je le disais tout à l'heure, moi je pense d'abord qu'il y a un air du temps, il y a une conviction que plus c'est privé, mieux ça va, et que singulièrement en France, où tous les hauts fonctionnaires sont quand même formatés par une même école, pour ne pas la citer, et donc avec un même prisme. Or, ce sont eux qui sont à la manœuvre. Ce sont ces hauts fonctionnaires, Pascal Lamy est vraiment emblématique à cet égard, mais il y a des hauts fonctionnaires non seulement à la Commission européenne, mais aussi dans chacun des gouvernements, qui gèrent ces matières très techniques. Et moi, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises, ceux qui se disent les responsables politiques, ils abandonnent leurs responsabilités sur ces fonctionnaires qui, eux, n'ont pas de compte à rendre aux citoyens, en tout cas. Donc, c'est typique de cette emprise de la technocratie sur la démocratie par des gens qui imposent leurs convictions. Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, ils sont en croisade. Moi, j'en connais qui sont des croisés du libéralisme, qui croient très sincèrement que, finalement, le modèle le plus avancé de société évoluée, ce sont les États-Unis. C'est d'ailleurs tout ce discours qu'on retrouve régulièrement sur la modernité. Entendez...
archaïsme et modernité.
Oui, mais entendez un Laurent Fabius et un Dominique Strauss-Kahn quand il vous parle d'un socialisme moderne, c'est un socialisme qui atténuerait à la marge les effets les plus pervers du capitalisme, mais qui ne remettrait pas en cause cette priorité donnée à l'intérêt privé, à l'individu, finalement à l'égoïsme. Moi, je crois que c'est cette dynamique-là qui est à l'œuvre. Et encore une fois, on a peut-être été un peu dépassé par la rapidité avec laquelle cette évolution s'est faite. Et aujourd'hui, moi, je le dis souvent dans les conférences que je donne, j'ai un peu le sentiment, avec beaucoup d'autres, de recommencer ce que faisaient nos grands-pères ou nos arrière-grands-parents à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, quand on parlait d'éducation populaire et qu'on disait qu'il fallait expliquer aux ouvriers, qu'il fallait expliquer aux paysans pourquoi le suffrage universel c'était important, pourquoi la liberté de créer une organisation syndicale, une caisse de mutuelle ou une caisse de coopérative, ça allait améliorer le sort des gens. On est aujourd'hui devant cette même obligation d'expliquer des textes. C'est pour ça que je me vois davantage comme un décodeur que comme n'importe quoi d'autre. Il y a un travail d'information, d'explication qui est de nouveau à faire. La grosse difficulté, elle est double. D'abord, c'est qu'aujourd'hui, on est à un niveau qui dépasse et de loin le cadre national. Et d'autre part, c'est qu'il y a des moyens de communication extraordinairement plus efficace que ceux qui existaient au 19e siècle ou au début du 20e et qui véhiculent un discours qui va dans le sens de cette société individualiste, égoïste, qui oublie la solidarité, qui oublie même quelque chose qui est fondamental à mes yeux, c'est que quand on regarde l'histoire de l'humanité, mais on dit souvent que le stade originel, donc le stade fondamental, c'est l'individu tout seul. C'est faux. Nous ne serions pas ici, vous et moi, si nos lointains ancêtres d'il y a quelques millions d'années ne s'étaient pas créés d'abord en communauté pour assurer leur survie. Et donc, c'est cette notion-là qui me semble fondamentale et qu'on a oubliée depuis une trentaine d'années, c'est que le sens de la communauté, le sens de la collectivité est vital pour la survie de aujourd'hui, je vais pas faire de grands mots, mais j'ai envie de dire pour la survie de l'humanité. Quand on pense, je suis assez effrayé d'entendre parler de la canicule sans entendre parler des causes de la canicule. Je suis assez effrayé d'entendre les ravages que font les incendies de forêt et la sécheresse sans entendre parler des causes. Les changements climatiques qui sont à l'origine de ces phénomènes dramatiques, c'est le résultat aussi d'un modèle de société, d'un choix ou d'un non-choix, d'une absence de choix, en tout cas d'une absence de prise de responsabilité. Or là, rien ne peut se faire au niveau de l'individu ou de l'entreprise privée, c'est un acte collectif qui doit être posé. Et donc aujourd'hui, nous avons véritablement besoin de retrouver le sens de la collectivité.
Voilà, merci à Raoul Marc Génard, chercheur auprès de l'Oxfam Solidarité. Vous pouvez avoir un complément d'information sur le site de l'unité de recherche, de formation et d'information sur la globalisation. C'est www.urfig.org. Urfig, ça s'écrit U-R-F-I-G. www.urfig.org. Des bouquins sur ce sujet, il y en a beaucoup. OMC, Le pouvoir invisible, chez Fayard, d'Agnès Bertrand et Laurence Kalafatides. Et puis, remettre l'OMC à sa place, c'est du collectif Attaque, c'est au Mille et une nuits. Reportage, Guy Vanctil, technique aujourd'hui. Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, l'assistante, c'est Joël Levert, le téléphone, enfin, le répondeur, c'est Christophe Imbert, 0156 40 37 37. Musique, Koy, Nguyen, mail daniel.mermet@radiofrance.com, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.